Et Marie-Pierre, en cette mi-novembre, on parle de mémoire.
Et de mémoire plurielle, Jonathan. Mémoire de la Grande Guerre, celle de 14-18, dont le magazine Le Pèlerin, sur son site, se fait largement l'écho cette semaine. Ainsi, on y découvre que la mobilisation le 1er août 14 interrompt la publication du journal et celle de 45 autres titres de la Maison de la Bonne Presse, la majorité du personnel masculin est en partie sous les drapeaux. Le Pèlerin ne reparaîtra qu'à la Toussaint 1914. Dimanche 2 août, second jour de la mobilisation, Loïs Roux et son frère Joseph, deux jeunes prêtres lyonnais mobilisés, sont acclamés par d'autres jeunes, des socialistes qui leur serrent la main. On a crié « À bas la calotte, à bas les 3 ans !» Maintenant, on est tous amis, tous frères. À l'annonce de la mobilisation en août 14, les croyants répondent à l'appel. Durant toute la durée de la guerre, 23 000 prêtres sont aux côtés des poilus. Au contact de la mort et de la souffrance, la pratique religieuse évolue. Dans les tranchées, une nouvelle forme de vie chrétienne voit le jour. Voilà ce que vous lirez sur le site du Pèlerin, mais aussi à travers les carnets de campagne du soldat Raymond Pasquier, un poilu ordinaire. Retrouvé récemment par sa petite fille et jamais encore publié, Le Pèlerin nous en partage de larges extraits.
Dans la croix de ce lundi, on parle de la généalogie au service de la mémoire.
Passionné de généalogie, Annie Mandrin entretient la mémoire des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. À partir de plaques de poilus retrouvées sur les champs de bataille de la Marne, cette bénévole de 73 ans fait le lien entre les familles et leurs aïeuls. Ce qui l'anime, ouvrir la mémoire des gens sur le passé qu'ils ont occulté. J'aime bien mettre un visage et une voix sur une plaque. C'est émouvant. Pour les descendants aussi, l'émotion est toujours vive parce que derrière chaque plaque de poilu, il y a une famille.
Et puis, depuis le 13 novembre 2015, bien d'autres plaques sont apparues ici et là sur les murs de Paris.
Des plaques sur lesquelles, à jamais vivant dans les mémoires, sont inscrits les noms des victimes des attentats islamistes du 13 novembre 2015. La plupart de nos journaux cette semaine font entendre la voix des rescapés, de leurs proches et amis, de leurs sauveurs, de leurs sauveteurs. Des médias qui également s'interrogent. La Croix. 10 ans après le 13 novembre, comment le paysage musulman s'est transformé? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir en sécurité? Le Pèlerin. Comment grandir après le 13 novembre? Ils étaient ados en 2015. Le journal protestant Réforme parle pour sa part d'une mémoire qui engage. La Croix Hebdo revient sur la problématique de la sécurité. Comment se protéger du terrorisme et à quel prix? Mais c'est sur un remarquable papier paru dans La Vie, dont Famille Chrétienne et le site Aletheia se font également l'écho, que je voudrais m'arrêter. Attentat du 13 novembre, à l'église Saint-Ambroise, la foi comme refuge face à l'horreur.
À 450 mètres du Bataclan, en descendant le boulevard Voltaire.
Eh bien, Jonathan, on tombe sur l'église Saint-Ambroise. Certains la surnomment Notre-Dame du Bataclan. Avec ses 2 tours pointues, on la voit de loin. Mais c'est tout en discrétion qu'elle est devenue un lieu de mémoire et de prière pour les victimes. Toutes les victimes des attentats du 13 novembre. Tout près de l'entrée, une chapelle abrite les 130 prénoms des personnes tuées ce jour si noir, comme le nomme la mère de 2 victimes. Elle a écrit au curé pour le remercier de cette initiative. Les noms des victimes, sont inscrits dans un simple cadre déposé au pied de l'immense crucifix qui orne cette chapelle. De nombreuses bougies brillent en permanence, signe que le lieu est particulièrement fréquenté. Nadia, une habitante du quartier, s'y rend régulièrement. Sa fille Lamia a été tuée ce soir-là, à l'âge de 30 ans, au bistrot de la Belle Équipe. La chapelle, pour cette catholique égyptienne du Caire, est devenue un refuge. C'est un lieu apaisé et ouvert à tous. Je dis un Notre Père et un Je vous salue Marie. J'allume une bougie et je lis tous les prénoms. Ils sont tous là. Cette dimension collective a absorbé ma fille. C'est comme un voile qui est venu l'envelopper. Chaque 13 septembre, Léna, qui a perdu sa meilleure amie Marie au Bataclan, se rendait sur les lieux jusqu'au jour où celle qui a grandi sans éducation religieuse pénètre dans l'église Saint-Ambroise et découvre le nom de son amie, gravé au milieu de celui des 129 autres victimes. elle reprend alors un long cheminement spirituel entamé déjà à l'adolescence. Il l'amène à franchir le cap. L'an dernier, elle a demandé le baptême. Depuis, Léna s'est investie dans l'équipe paroissiale. Tous les vendredis, elle allume un cierge dans la chapelle pour Marie. Mais pour elle, le temps du pardon n'est pas encore revenu. Il y a des témoignages qui révèlent une colère dont certains sont encore submergés et qui est aussi parfois une porte par laquelle la question du ciel se réouvre dans les cœurs, murmure le père Pascal Nègre.
Mais on parle aussi d'autres mémoires, Marie-Pierre.
Mémoire d'une bibliothèque et de vie sauvée grâce aux livres. À Alep, dans le quartier d'Azizié, témoin d'un monde oublié, la dernière bibliothèque du pays, fondée en 1956 par le père Joseph Jamal, un religieux melkite, survit encore grâce à ses bénévoles. Du temps de sa splendeur, la bibliothèque était un espace où tout le quartier se retrouvait, se souvient Hikmet Bali, pharmacien et bénévole. Un espace de liberté qui attirait aussi les autres communautés, raconte encore le père Marsri. Durant la guerre, malgré les bombes et la peur, la bibliothèque est restée ouverte. Le livre a sauvé des vies. On ouvrait quelques heures pour montrer que la culture n'était pas morte. Lire était notre seul échappatoire, se souvient encore Hikmet Bali. Aujourd'hui, alors qu'en Syrie, c'est ce que je lis cette semaine dans La Croix, Daesh refait surface, la majorité des familles sont parties. Il ne reste que des vieillards qui refusent de mourir ailleurs. Et les jeunes qui restent ne lisent presque plus. Les bénévoles ne sont plus que les gardiens d'un musée. Mais l'histoire cache toujours des surprises, alors qui sait? Qui sait ce que le Seigneur met dans le cœur de chacun? Bien loin de là, à Paris, durant toute cette nuit du 13 novembre 2025, les fidèles et le curé de cette église Saint-Ambroise dont je viens de vous parler ont organisé, c'est ce que nous rapportent nos confrères de Famille Chrétienne et d'Aliteia, une veillée ouverte à tous, une nuit de l'espérance pour consoler sans oublier.